Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail.
Merci patron.
Avec Philippe Saunier.
Bonjour. Dans cette chronique des temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail, je vais vous parler aujourd'hui du 1er mai. Alors, c'est pas tout à fait tout de suite, mais on a compris dans les différents médias qu'un projet de loi était passé au Sénat pour réduire le nombre d'ayants droit au 1er mai et que ça arrivait à l'Assemblée nationale, un projet de loi porté par la droite. Donc on va regarder ce qu'il en est. Il faut se souvenir que le 1er mai est le seul jour férié chômé et payé pour l'ensemble des salariés, même s'il y a déjà quelques salariés, mais on s'en doute, dans les services publics en particulier, qui sont obligés de travailler, mais personne ne le discute. Donc l'objectif, ce serait d'élargir la liste des gens qui devraient travailler, finalement. Alors c'est une suppression de jours fériés chômés présentée, finalement, pour aider l'ensemble de la population. En fait, c'est exactement le contraire, c'est le doigt dans le grenage, avec en commençant par certains commerces. Ce doigt dans l'engrenage, c'est une tactique classique. Et d'ailleurs, je vais faire deux parallèles à ce sujet. Le premier parallèle, c'est l'interdiction du travail le dimanche, où à force de dérogation, quasiment tout le monde, en tout cas beaucoup de monde, peut travailler le dimanche. Alors je prends qu'un seul aspect, le fait que les maires peuvent désormais déroger à cette obligation du repos dominical le dimanche dans certains commerces. Au départ, il y en avait zéro. En 1973, donc, une dérogation qui sort pour dire que les maires peuvent finalement faire travailler certaines professions trois dimanches par an. En 1993, cette dérogation passe de 3 à 5 dimanches par an. Et en 2015, elle passe de 5 à 12 dimanches par an. À cela s'ajoutent des dérogations qui existent déjà pour le préfet qui peut décider de dérogation, des dérogations existantes dans le commerce alimentaire, des dérogations dans certains secteurs touristiques, pour les fonctionnaires, pour l'industrie lourde, et aussi des dérogations conventionnelles, et j'en oublie. Et quand on additionne tout ça, on voit qu'il y a quand même énormément de gens qui veulent travailler le dimanche, à force de mettre ces dérogations bout à bout. Autre exemple que l'on connaît tous, celui des embauches, puisque dans le temps, si je peux le dire comme ça, quand on avait une embauche, c'était une embauche fixe après la période d'essai et en contrat donc à durée indéterminée, ce qu'on appelle les embauches fixes, et à temps plein. Aujourd'hui, c'est une petite minorité de propositions d'embauche, c'est moins de 1 sur 10 quand même, où on propose des contrats à durée indéterminée et à temps plein avec toutes les formes de précarité qui ont été développées. Je donne cet exemple-là pour montrer que c'est pas marginal de mettre un coin sur le droit au repos le dimanche en tant que jour férié payé chômé. Ça va bien au-delà et bien sûr, c'est aussi idéologique. Je vais y revenir. Alors, ça nous fait pourtant du bien à tous d'avoir une journée dans le calendrier où tout le monde, ou presque, à quelques exceptions qui existent déjà, a le droit à une journée de repos. Vous savez que dans certains pays, si vous êtes un peu promené, par exemple le dimanche, pratiquement tout est fermé, ce qui n'est déjà plus le cas dans d'autres régions de France. Alors, ce qui m'amène à revenir sur le 1er mai, c'est aussi bien sûr le symbole. Le 1er mai trouve son origine dans le 1er mai 1886 à Chicago, puisque c'est une journée internationale, ce 1er mai, alors que les travailleurs en grève exigent la journée de 8 heures, donc il y a 140 ans maintenant, ils vont subir une sanglante répression puisqu'il va y avoir des morts. Et c'est à partir de là que sera décidé pour le mouvement ouvrier international qui commence à émerger, hein, on est à la fin du 19e siècle, cette idée d'en faire une journée de lutte internationale de solidarité du monde du travail. Alors j'ai cité ce 1er mai 1886 à Chicago, qui va être le déclencheur de ce 1er mai tel qu'on le connaît, mais il va y avoir également un autre événement, cette fois-ci en France, le 1er mai 1891, dans le Nord, à Fourmies, donc la région des mines, où la troupe, l'armée, reçoit l'ordre de tirer sur les grévistes, qui réclament eux aussi la journée de 8 heures, et on va relever 9 morts, 35 blessés et beaucoup d'arrestations parmi les grévistes. Donc on peut dire quelque part que ce 1er mai, pour ce qui nous concerne, a au moins deux grandes origines. Encore aujourd'hui, le 1er mai dans certains pays est réprimé dans le sang. Le 1er mai va devenir donc cette journée de lutte et de solidarité, d'émancipation pour les libertés, l'ensemble des revendications, j'ai cité la journée de 8 heures, mais aussi la paix, et je vais y revenir. Alors Pétain ne peut pas attaquer frontalement le 1er mai, le maréchal Pétain, donc il va contourner, si l'on peut dire, l'obstacle, il va transformer ce motif du 1er mai tout en gardant la date. C'est lui qui va inventer la fête du travail. Ça n'a rien à voir avec une journée de lutte et de revendication des travailleurs, la fête du travail. Vous vous souvenez de sa trilogie, hein, Travail, Famille, Patrie. Donc il va dénaturer le motif, et pour le dénaturer davantage, puisque jusqu'alors, le symbole, la fleur du 1er mai, c'est l'églantine rouge, eh bien c'est lui qui va transformer les affaires pour garder une fleur, mais la changer. C'est là qu'on va avoir arrivé le brin de muguet blanc. Le brin de muguet blanc, eh bien, c'est Pétain, et précédemment, c'était une fleur rouge. On comprend bien pourquoi. Alors, quand on regarde ces affiches du 1er mai dans l'histoire, avec donc bien plus d'un siècle maintenant, on voit toute notre histoire sociale. Bien sûr, la journée de 8 heures, j'en ai parlé. Celle de 1936 sur l'unité syndicale. Le 1er mai 1938 contre l'arrivée du fascisme, les 1er mai pendant la guerre d'Algérie, etc. Et toutes les batailles contre le colonialisme et le racisme et l'égalité des droits. C'est donc à mon sens par excellence une journée pour les gilets jaunes, pour les rouges, pour les verts, pour tous ceux qui veulent un avenir meilleur et ne se contentent pas d'en rêver, mais veulent aussi se rassembler pour l'obtenir. Le 1er mai, c'est pour tous les travailleurs du monde, pas seulement des exigences sur les conditions de travail, j'en ai un peu parlé, mais la lutte pour la paix. Et dans ce domaine, nous sommes dans une période particulièrement inquiétante, nous le savons tous sur ce point, avec des conflits existants déjà, qui ne sont pas réglés. Je pense à la Palestine, mais il y en a d'autres, et d'autres qui arrivent, qui s'ouvrent. On pense bien sûr au Groenland et au Venezuela, et cette tension qui monte par rapport à Taïwan et également dans d'autres régions du monde. Nous n'avons pas connu une pareille tension depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors, j'ai pas cité l'Ukraine, mais c'est simplement parce qu'on l'a tellement en tête que vous y avez pensé aussi. Et donc, une raison de plus pour avoir un symbole, celui du 1er mai, pour le monde du travail, pour ses revendications et pour la paix. Alors, cette mesure proposée par la droite de limiter la portée de ce 1er mai, est non seulement malvenu par rapport à l'actualité, par rapport à tout ce qu'il reste à faire, et il y a beaucoup dans le domaine, mais c'est aussi une mesure d'ordre idéologique, revancharde des exploiteurs contre les exploités. Voilà ce que je voulais dire. Je vous avais déjà parlé du 1er mai à d'autres occasions. Mais en ce moment, c'est aussi le moment, je dirais, de remettre les pendules à l'heure dans le domaine. Voilà. À bientôt.
Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail de Philippe Saunier. À retrouver en podcast sur cfmradio.fr, rubrique CFM Clébus.
Il est plus petit que le jardin de ma tante.
Oh,
ah, bien sûr. Et mon patron, il change de costume deux fois par jour.
Oh.